5h, 7h,
Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains, restez avec nous dans quelques minutes. Fabrice Dalméda va nous raconter l'histoire de la SNSM dont 3 sauveteurs ont perdu la vie en mer en portant secours à un marin pêcheur vendredi dernier. Et puis à 6h20, je reçois Paul Fer, un jeune apiculteur, à l'occasion de la 10e fête nationale de l'abeille qui démarre aujourd'hui. L'abeille, insecte, vous le savez, essentiel à notre écosystème et pourtant plus que jamais menacé.
Merci d'écouter Europe 1. Nous sommes le jeudi 13 juin et il est 6h. Très bon réveil. 5h, 7h, Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une.
Une marche blanche en début d'après-midi à Lorient, 4 jours après le terrible accident qui a coûté la vie à un petit garçon. Toujours aucune trace du chauffard et de sa passagère dont les téléphones portables ont été coupés. Ils n'ont effectué aucun retrait bancaire selon le Parisien. Retrait impôt PMA, Édouard Philippe a prononcé son discours de politique générale hier devant l'Assemblée. Il a obtenu ensuite la confiance de la majorité. Et puis les Françaises ont battu les Norvégiennes de buts à 1 hier soir. Rendez-vous lundi prochain contre le Nigeria pour être sûr d'être en 8e de finale du Mondial. On y revient évidemment avec Jérôme Lacroix.
Europe 1.
Mais où sont-ils? 4 jours après le terrible accident à Lorient où un enfant a été tué, un autre grièvement blessé, l'homme qui était au volant et sa passagère restent introuvables. Selon nos confrères du Parisien, ils ont coupé leur portable et n'ont pas utilisé leur carte bancaire depuis le drame, ce qui rend impossible leur localisation. Aujourd'hui à 13h30, une marche blanche est prévue à l'initiative des habitants du quartier. Hélène Terzian est l'envoyée spéciale d'Europe 1 sur place.
Le parcours est symbolique. En s'élançant près du centre culturel turc, la marche empruntera la route utilisée par la voiture meurtrière pour s'achever sur le lieu de l'accident, aujourd'hui recouvert de fleurs. Un moyen pour Pascal, habitante de Lorient, de soutenir une famille et tout un quartier bouleversé.
C'est un besoin de se rendre parmi les autres personnes pour rendre un hommage collectif. En fait, les gens sont encore plus attristés par le fait qu'ils persistent en fait dans sa fuite. Ils ont du mal à faire leur deuil à cause de cela.
Et justement, derrière l'hommage rendu aux 2 enfants fauchés, cette marche est aussi une forme d'appel aux fuyards. Véronique Samuel, à l'initiative du rassemblement, veut adresser un message aux jeunes chauffards.
Regarde ce qui s'est passé, ce que tu as fait. Le monde qui soutienne cette famille, les hommages, il y a la colère. Un minimum de respect pour la famille, que les histoires s'apaisent et rends-toi.
Une marche silencieuse à laquelle participeront de nombreux membres de la communauté turque. Le petit garçon de 9 ans mort dans l'accident est inhumé aujourd'hui dans l'est de la Turquie.
Reportage signé Hélène Terzian pour Europe 1. 3 enfants sauvés de l'incendie d'un immeuble situé dans le centre de Marseille. Ils ont été sortis par la fenêtre de l'appartement par leur mère au premier étage, puis récupérés par des passants. Les marins-pompiers ont évacué tous les habitants de l'immeuble ensuite. Et puis le feu a été maîtrisé en début de soirée. L'origine du sinistre n'est pas connue pour le moment. Le docteur Péchier reste en liberté. Ainsi on a décidé la cour d'appel de Besançon. L'anesthésiste est soupçonné de 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Emmanuel Macron va présider aujourd'hui une cérémonie pour rendre hommage aux 3 sauveteurs de la SNCM. Ils sont morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier en détresse. Ils recevront la Légion d'honneur à titre posthume, tout comme les 4 rescapés du naufrage.
Sans surprise, Édouard Philippe a obtenu la confiance de l'Assemblée hier.
Oui, une confiance juste après son discours de politique générale pour lancer l'acte 2 du quinquennat. Il a évoqué l'ensemble des réformes à venir. Il a démarré son intervention par l'écologie. Par ailleurs, il a annoncé que 17 millions de foyers seraient concernés par les baisses d'impôts l'an prochain. Baisse moyenne entre 180 et 350 euros par an. Les précisions d'Anne-Laure Jumet.
Quasiment tous ceux qui payent des impôts aujourd'hui verront leurs factures baisser en janvier prochain, sauf les plus hauts revenus, au-delà environ de 6 000 euros par mois. Les grands gagnants sont les classes populaires et les classes moyennes, avec un gain moyen de 350 euros par an. Selon les calculs de Bercy, un célibataire qui gagne 2 000 euros par mois verra ses impôts baisser de 541 euros par an, soit une réduction de 30%, mais ce sera moins visible pour celui qui touche 1 500 euros par mois. Lui verra ses impôts diminuer de 39 euros. En parallèle, l'entrée dans l'impôt sur le revenu sera lissée pour que ce soit moins brutal pour les personnes qui gagnent un peu plus d'argent et qui se mettent donc à payer subitement l'impôt sur le revenu. A noter que l'effet des baisses d'impôt sera atténué pour ceux qui gagnent entre 2100 et 6000 euros mensuels. Là, le gain ne pourra pas dépasser les 125 euros pour un célibataire.
Anne-Laure Jumet pour Europe 1. Un test pour Jean-Dominique Senard, le nouveau président de Renault. Hier soir se tenait l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du groupe. C'était la première depuis l'affaire Carlos Ghosn, mais aussi depuis la rupture des fiançailles avec Fiat Chrysler. Jean-Dominique Senard qui a exprimé ses regrets sur l'échec de cette fusion.
Cette éclosion de l'industrie chinoise va se traduire par
probablement une forme de tsunami sur l'industrie automobile de nos régions. Je voulais simplement vous dire qu'entre 2012 et 2018, les pneumatiques chinois en Europe sont passés de 5% de part de marché à 30% en 5 ans. Ce qui va arriver dans l'automobile est, à mon sens, de la même nature. Nous devons être suffisamment forts pour pouvoir résister. Et lorsqu'une proposition nous est arrivée, nous l'avons étudiée très à fond avec le conseil d'administration. Il se trouve que ce soir-là, les représentants de l'État n'ont pas partagé cette analyse. Le vote n'a pas pu avoir lieu. Ce que je vous dis franchement me désole.
Jean-Dominique Sénard au micro de François Geffrier. Brigitte Macron dans les pas de Bernadette Chirac. Elle lui succède à la présidence de l'organisation qui collecte les fameuses pièces jaunes au profit des enfants hospitalisés, annoncé hier soir de la Fondation. C'est Bernadette Chirac elle-même qui a proposé le nom de Brigitte Macron.
Faire de la musique, chanter à plusieurs voix des mélodies complexes sans passer par la case solfège. Le rêve pour beaucoup d'entre vous sans doute.
Et oui, figurez-vous qu'un groupe de 8 chanteurs anglais mettent en application leur méthode d'apprentissage en sillonnant toute leur Europe. Ils ont rencontré des collégiens en région parisienne qui se sont prêtés à l'exercice et le résultat est assez bluffant. Ils seront ce soir à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Thierry Geffrotin.
Lève la main, équipe 1, équipe 2.
Ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas une équipe de foot, c'est une chorale, un chœur immense, 250 collégiens des Hauts-de-Seine qui se sont mis à la musique il y a quelques mois grâce à une méthode assez révolutionnaire, la méthode Voices 8. Johanna Spiro est la responsable française du projet.
Ils ont vraiment leur méthode qui est très vivante, qui passe vraiment par la gestuelle, la pédagogie collective sur les rythmes. Ils font des body percussions pour ressentir justement la musique à travers le corps. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les élèves.
Et voici le résultat. Petit échauffement avant de passer à des choses plus sérieuses. Et finalement, la méthode Voices 8, ce ne sont pas que des cours collectifs, c'est aussi un livre et des vidéos mises en ligne sur Internet pour apprendre la musique en s'amusant.
Et c'est ce soir à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Sujet signé Thierry Geffrotin.
C'est sympa comme initiative.
C'est pas mal,
c'est super.
Ouais.
C'était le journal de Céline Kalman. Merci Céline. Pour répondre à votre question à antenne, Céline, les chats qui n'ont pas de poils s'appellent des sphinx.
Ah,
voilà.
D'accord.
C'est tout ridé, c'est tout fripé, ça ressemble un peu à des nouveau-nés ou à moi
quand je
sors de la douche. Mais voilà, ça ressemble un peu à Gollum, effectivement.
Vous n'avez pas de poils?
Hein?
Vous n'avez pas de poils?
Non, je suis totalement...
Un berbe, d'accord.
Voilà.
Ça suffit, merci, enchaînons. Il est 6h07, Julien Pierce.
Comment enchaîner? Alors dans un instant,
vous
notre
demandez
historien...
si vous étiez bizuté, voilà, je pense que c'est fait.
Voilà. Ouais. Eva, arrêtez de me regarder comme ça, non, ça me met extrêmement mal à l'aise. Fabrice Dalmeida va nous raconter l'histoire de la SNSM, c'est extrêmement sérieux en plus, hein, dont 3 sauveteurs ont perdu la vie en mer en portant secours à un marin pêcheur vendredi dernier. Le président Macron se rend aujourd'hui au Sable d'Olonne pour leur rendre hommage. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe.
Julien Pierce.
On va pouvoir aller en terrasse aujourd'hui, mais il faudra bien choisir son moment. C'est ça,
ouais,
c'est
et Cotin. Puis l'endroit, parce que alors, la bonne nouvelle, c'est que le soleil va revenir largement sur les 3/4 du pays. Donc pour tout ce qui est moitié sud, là, la terrasse sans problème, hein, écran total même. Pour l'est également, il va faire très beau. Et c'est encore un petit peu mitigé sur le nord-ouest, hein, pour la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, puis en remontant jusqu'au Hauts-de-France, en passant par l'Île-de-France. Là, on aura encore pas mal de nuages ce matin, quelques gouttes possibles, du vent. Ça va s'arranger cet après-midi, donc peut-être qu'en milieu de, en fin de matinée, début d'après-midi, on pourra tenter la terrasse, effectivement, parce que les éclaircies vont revenir plutôt largement. Les pluies vont rester rares et vont se cantonner aux côtes de la Manche. Quant aux températures, elles sont encore un petit peu fraîches ce matin, ça va grimper sous le soleil, vous vous en doutez, 22 à 28 degrés, 16 à 24 dans les régions, les nuages vont encore résister un petit peu.
Merci Céline. Eva Rock, je vois que notre question fait un tabac sur Twitter.
Oui, de quelle émission êtes-vous nostalgique depuis ce matin 5h? Et bien sur Twitter avec le hashtag Europe 1, vous êtes très nombreux à nous répondre, alors notamment les émissions des Carpentiers, mais Gecko nous dit par exemple 1 sur 5 émissions des années 70 avec Patrice Lafont, Les Enfants du Rock, et l'assiette anglaise comme moi, merci pour toutes vos réponses.
Merci beaucoup Eva.
5h, 7h,
Julien Pierce sur Europe 1.
Et je crois qu'il est l'heure du journal le plus important de cette matinale, celui de la Coupe du Monde féminine de foot.
La Coupe du Monde féminine,
l'événement foot est sur Europe 1.
Et c'est avec l'inusable Jérôme Lacroix. Les titres, Jérôme.
Les Bleus, la tête la première. La victoire contre la Norvège s'est aussi jouée sur la force de détermination hier soir. Deux victoires en deux matchs et une cote de popularité toujours au top. Ces Bleus qui ont un crampon trois quarts en huitième de finale. Un nul leur suffira au prochain match lundi pour finir première du groupe.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Taille patronne, ces Bleus-là, elles devaient réussir le test Norvège, deuxième match du mondial. C'était le plus gros morceau du premier tour. C'est réussi, succès 2-1 hier soir à Nice. Dans les tribunes, 35 000 spectateurs, stade comble et supporters comblés, tout comme ceux qui ont suivi la rencontre dans un bar niçois.
Les Françaises ont été supérieures individuellement, techniquement.
On compte sur elles pour aller loin.
Tout le monde suivait, tout le monde était à fond, c'était incroyable.
On sent qu'il y a un bon esprit d'équipe, elles se complètent bien l'une avec l'autre. Elles ont quand même su gérer la difficulté, se sont très bien débrouillées.
Eh ben, allez la France,
allez la France, allez la France.
Et ces Françaises qui sont ce matin premières de leur groupe de qualification, 6 points. Alors là, c'est pas encore mathématiquement fait, mais il faudrait vraiment un tremblement de terre avec triple effet papillon pour qu'elle ne passe pas en huitième de finale.
Et l'histoire de ce France-Norvège hier soir, c'est celle du destin contrasté de Wendy Renard.
La puissante défenseuse double buteuse au match d'ouverture a marqué contre son camp hier soir sur un dégagement mal assuré, un geste fruit de la pression qui l'a bouleversée, mais un temps seulement.
C'est vrai, dans ces situations-là, vous vous sentez seul en fait, même comme une conne limite. Mais après, les coéquipiers ont été là pour moi et ça a démontré, ça démontre tout simplement notre force aussi, la force du collectif.
Et avant ce but contre son camp, c'est l'attaquante française Valérie Gauvin qui avait ouvert le score après seulement 46 secondes en seconde période. Elle qui avait été punie, laissée remplaçante au match d'ouverture pour être arrivée en retard à des entraînements.
Je retiens le fruit de la pression.
Fruit de la pression. Hein,
très joli. Et parmi ces Bleus, l'une est à la chasse au record.
C'est Eugénie Le Sommer, la prolifique attaquante buteuse décisive hier sur un pénalty. 76 buts désormais en équipe de France. Elle est à seulement 5 longueurs de la meilleure buteuse historique Marinette Pichon. Un pénalty accordé aux Françaises après recours à l'assistance vidéo à l'aube du dernier quart d'heure. Dénouement tardif pour des Françaises qui ont ensuite bien résisté. Elles ont su montrer les muscles, se félicite justement Eugénie Le Sommer.
Il faut parfois passer par des moments difficiles pour aller loin dans la compétition. Aujourd'hui, on apprend encore. Il faut se servir de ça. L'équipe a eu du caractère, a eu du mental pour revenir et c'est ça qu'il faut retenir.
Des propos recueillis par Julien Froment, direction la Bretagne. Pour les Françaises, Rennes, théâtre lundi prochain du dernier match du premier tour. Ce sera France-Nigeria. Un nul suffira aux Bleus pour assurer la première place du groupe.
Ces Nigériennes qui ont d'ailleurs gagné hier.
Oui, 2-0 face aux Sud-Coréennes. C'est une petite surprise. Également hier, courte victoire des Allemandes face aux Espagnols, 1-0.
La joueuse à suivre aujourd'hui est brésilienne.
Australie-Brésil, 18h. On suivra Christiane, l'attaquante du Brésil, qui a su dire adieu à ses démons frappés par la dépression il y a 3 ans. Elle ne mangeait plus, ne sortait plus de chez elle, ne jouait plus au foot. Revenue au plus haut niveau, elle a déjà marqué dans ce mondial. Un triplé, c'était au premier match.
C'était le journal de la Coupe du Monde féminine de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. Et à demain.
À demain.
Raymond Queneau a écrit un jour que l'histoire est la science du malheur des hommes. Je rajouterai modestement qu'elle est aussi celle de leur courage.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour, bonjour à tous.
Le président de la République sera aujourd'hui au Sable d'Olonne pour rendre hommage aux 3 sauveteurs morts en mer vendredi dernier en tentant de porter secours à un marin pêcheur. Cette cérémonie honorera aussi la Société nationale du sauvetage en mer auquel ils appartenaient. Fabrice, que représente la SNSM dans notre histoire ?
Ben, des dons de soi extraordinaires. Je vais prendre un exemple, on est en 1863. Un marin, Hyacinthe Forcel, rentre au port de Blainville sur la presqu'île du Cotentin en Normandie avec son fils. Ce jour-là, la mer est mauvaise, la visibilité faible. Hyacinthe entend appeler au secours sans hésiter. Il se rapproche et aperçoit 2 hommes et une femme accrochés au mât d'une chaloupe, déjà submergés par la houle. Redoutant d'être emportés par le courant, aucun ne veut s'élancer vers leur sauveteur. Et c'est donc Hyacinthe, au péril de sa vie, qui va les chercher et les ramener un à un sur son embarcation avant de les déposer à bon port. Ce n'est pas son premier sauvetage, car ce volontaire a déjà plusieurs vies sauvées à son actif. Ce héros reçoit un prix de 3000 francs de l'époque, c'est-à-dire 15 000 euros d'aujourd'hui à peu près, de la Société centrale du sauvetage des naufragés, créée en 1865 sous le Second Empire, précisément pour fédérer les créations de stations de sauvetage locales.
C'est un des ancêtres de la SNSM actuelle ?
Oui, exactement. La Société nationale du sauvetage en mer est née de la fusion de cette association avec la Société des hospitaliers sauveteurs bretons. Mais longtemps après, à cause des destructions dues à la Seconde Guerre mondiale, c'est donc seulement en 1967, sous l'impulsion d'un préfet maritime, Maurice Hamann, que la SNSM est née. Hamann, qui d'ailleurs en a été le premier président.
Est-ce que le principe du bénévolat est demeuré au cœur de cette association ?
Oui, toute la beauté est là. L'aide est apportée par des bénévoles tels Yann Chagnolo, Alain Guibert et Dimitri Moulic, aujourd'hui disparus. Le matériel est acheté grâce aux dons privés, parfois avec des aides publiques. Les seuls professionnels à y être actifs sont les marins-pompiers de Marseille, des militaires. Tous ces sauveteurs veillent sur le monde de la mer, celui des pêcheurs, mais aussi des simples plaisanciers. Générosité, courage, vous l'avez dit, voilà ce que célébrera l'hommage national au Sable d'Olonne.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda pour cette histoire étonnante de la SNSM et je vous dis à demain.
Europe 1.
Il est 6h16, Julien Pierce.
Debout les copains se poursuit, tous de jaune et de noir vêtus. Dans un instant, je reçois un jeune apiculteur à l'occasion de la 10e fête nationale de l'abeille qui débute aujourd'hui. Vous le savez, nos abeilles vont mal, très mal, et c'est en grande partie de notre faute. Alors est-ce que tout est perdu d'avance ? Que peut-on faire pour sauver nos pollinisateurs essentiels à l'écosystème ? Autant de questions que nous poserons à Paul Fer, fondateur de l'école des hautes études en apiculture. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce.
Le mondial de foot féminin, deuxième victoire consécutive. Les Bleus ont battu les Norvégiennes hier soir à l'issue d'un match plutôt laborieux de 2-1 à Nice, place quasi assurée en huitième de finale. Emmanuel Macron préside aujourd'hui une cérémonie en la mémoire des trois sauveteurs de la SNSM morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier en détresse. Et puis la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, propose de ne plus poursuivre les délinquants de moins de 13 ans. La garde des Sceaux veut établir un seuil d'irresponsabilité pénale en dessous de cet âge, annonce aujourd'hui dans un entretien au journal La Croix.
5h, 7h.
Julien Pierce sur Europe 1.
Voici pour les titres de ce jeudi 13 juin. Mais l'actualité, c'est aussi la 10e fête nationale de l'abeille qui démarre aujourd'hui et ce pour 3 jours. Des animations vont être organisées un peu partout en France, dans 130 villes exactement, pour sensibiliser le public à la protection des abeilles et des insectes pollinisateurs. Bonjour Paul Fer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes un jeune apiculteur, fondateur de l'école des hautes études en apiculture. Tout d'abord, une question pour faire le bilan, le constat. Quand on parle de baisse de la population d'abeilles en France, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ?
Bien sûr. Alors ça dépend après de quoi on parle quand on parle d'abeilles. Il y a les abeilles domestiques, l'abeille mellifère. Donc le mot domestique est peut-être à nuancer, hein, mais cette abeille-là qui produit le miel, voilà, notamment, qui rend un grand service pour la pollinisation des cultures. Celle-ci, donc, on va dire que les chiffres sont plutôt stables après une décroissance sur plusieurs années. On arrive à peu près à 1 200 000 ruches. Mais en revanche, il y a tout un effort qui est plus important que les années précédentes pour maintenir ce nombre. Et sa santé, par contre, a besoin d'un suivi très très important de la part des apiculteurs. Voilà. Et ensuite, il y a les abeilles au sens très large, qui comprend les bourdons, des abeilles solitaires et sauvages. Et là, tous les chiffres indiquent des baisses importantes. Le dernier, si je peux compléter ma réponse, c'est 2017, une étude en Allemagne dans les zones sauvages qui démontre que une baisse de 75% de tous les insectes volants sur 30 ans dans les zones pourtant privilégiées, des zones naturelles.
Oui, c'est le constat que font de nombreux automobilistes. Hein, maintenant, quand ils partent en vacances ou prennent la route au printemps ou en été, les phares, les pare-vides, les pare-brises, pardon, sont immaculés alors qu'ils étaient criblés il y a encore quelques années. Quelles sont les causes de la disparition des abeilles domestiques et sauvages ?
Ils sont en partie les mêmes, donc je pense à une dégradation de l'environnement, une pollution, un impact humain, hein, que ce soit l'agriculture ou des activités industrielles, l'activité des villes. On a bien sûr le changement climatique qui n'améliore pas les choses, des saisons comme maintenant, hein, on a un mois de juin qui est complètement détraqué, des périodes de froid à des moments où on s'y attend pas, des périodes de sécheresse aussi par année qui peuvent être très importantes et très importantes et durer. Ça modifie les paysages également. Voilà. On a aussi après plus particulièrement pour l'abeille mellifère, cette abeille à miel, des maladies, des prédateurs qui sont arrivés, qui s'accumulent d'année en année. Voilà.
Comme le frelon asiatique.
Le
par
frelon asiatique qu'en est un dont, qui fait beaucoup parler de lui dernièrement, arrivé en 2004 et qui aujourd'hui on peut le retrouver sur tout le territoire français.
Même à Paris, je crois.
Oui, et on le retrouve aussi pour des raisons de changement climatique.
Là, c'est plutôt dû aux activités, à la mondialisation, les échanges internationaux qui l'ont ramené du côté de Bordeaux. Et ensuite, il s'est diffusé puisqu'il a trouvé un climat et une alimentation qui lui convenait.
Est-ce qu'on peut encore sauver nos abeilles ?
Bien sûr, faut rester positif, je pense. Et donc, c'est peut-être maintenant qu'on peut parler de toutes les solutions qu'on a chacun un petit peu à notre niveau.
Lesquelles ?
Alors, si vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est de laisser pousser ces jolies fleurs qui vont colorer votre jardin. Vous pouvez en planter, bien sûr, et puis rechercher lesquelles sont importantes pour les pollinisateurs. Certaines produisent du nectar, certaines produisent du pollen, et puis d'autres peuvent produire les deux. Mais pas toutes. Il y a des plantes aussi qui n'ont pas cet intérêt qui n'apporte pas d'alimentation pour les insectes.
Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de ces abeilles pour nous et pour la nature d'une façon générale ? En quoi c'est si important que ça aujourd'hui de sauver ces abeilles ?
Bien sûr, alors on a chiffré hein, et puis on a évalué cet impact des pollinisateurs sur notre alimentation par exemple, ce qui est assez parlant. C'est un tiers de notre alimentation qui dépend directement de l'impact des pollinisateurs. C'est donc une cuillère sur trois, une fourchette sur trois. Ça va parler, je pense, aux auditeurs. Et puis après, si on ne pense pas qu'à nous, les pollinisateurs sont aussi responsables de la pollinisation, donc de la reproduction de 90% des plantes à fleurs sauvages.
Oui, et vous, dans ce contexte, excuse-moi Eva,
non, c'est bon.
comment vous vivez, vous, apiculteur, dans ce contexte de disparition, ou en tout cas de baisse drastique du cheptel, si je peux employer ce terme, des abeilles ?
Mais c'est la passion qui fait tenir beaucoup d'apiculteurs, mais c'est devenu effectivement une activité parfois donc professionnelle, mais assez rarement. Hein, la grande majorité des apiculteurs sont des apiculteurs de loisirs, et donc ils font face à des difficultés croissantes. Il faut connaître beaucoup de choses sur la santé de l'abeille, savoir détecter dès les premiers symptômes, et puis savoir agir en conséquence.
Il y a de moins en moins d'apiculteurs ?
C'est à peu près stable. On bénéficie quand même d'une exposition médiatique assez importante, et donc il y a un renouvellement quand même des apiculteurs. Mais c'est vrai que la moyenne d'âge est assez élevée. Il faut, je pense, continuer à parler d'abeilles, à intéresser les gens et à attirer de nouveaux apiculteurs.
Merci beaucoup.
Et
Paul
acheter
Fer.
Du miel français. Surtout.
Absolument.
Bien sûr, j'en vois sur la table.
Je suis pas sûr qu'il soit français celui-là.
Mais regardons bien les
étiquettes.
Effectivement.
Merci beaucoup Paul Fer de nous avoir éclairé ce matin sur l'importance des abeilles. Je rappelle que vous êtes donc apiculteur et auteur de Abeilles, gardiens de notre avenir. C'est aux éditions Rustica. Et si le sort des abeilles vous intéresse, si vous avez envie de vous engager en ce sens, allez faire un tour à la fête nationale de l'abeille qui débute aujourd'hui. Il y a des événements un peu partout en France, dans 130 villes. Et ça jusqu'à samedi soir. Merci à vous et à très bientôt.
Europe 1. Il est 6h26, Julien Pierce.
Dans un instant, le journal complet de David Doucan et la météo de Céline Dacosta. Tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h28, Julien Pierce.
La météo,
oui.
Céline.
Tenez, paf.
Oui, alors je prends
vous
la feuille.
Une petite feuille, comme ça vous saurez.
Alors, première question, c'est plus calme aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Et un petit peu plus lumineux du coup sur les trois quarts du pays. Les seules régions où ça va rester quand même mitigé avec des nuages, un petit peu de vent, encore quelques gouttes ce matin. C'est le nord-ouest, le nord, hein, la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, l'Île-de-France jusqu'au Hauts-de-France. Ça ira mieux cet après-midi, ça c'est la bonne nouvelle, puisque ces petites ondées vont se décaler vers les côtes de la Manche. Et les éclaircies seront beaucoup plus larges. Pour la moitié sud, pour l'est, c'est grand beau aujourd'hui, toute la journée. Le vent d'automne va bien souffler jusqu'à 90 km/h. Et puis, on a une nouvelle perturbation. Elle arrivera en fin de journée. Elle sera pluvieuse. Elle va arriver par le sud-ouest, hein, les côtes basques notamment, avec des orages possibles. Et ça, c'est les prémices de la nouvelle perturbation qui nous attend pour demain. Donc, vous avez compris, aujourd'hui, c'est la calmie. On en profite.
Rapidement, les températures ?
Fraîche ce matin, 16 à 24 degrés pour la moitié nord cet après-midi. Un petit peu plus pour les autres, sous soleil, jusqu'à jusqu'à 28 degrés dans le sud-est.
Merci beaucoup Céline Dacosta.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
Très bon réveil à tous, vous écoutez Debout les copains. Après le journal de David Doucan, on retrouvera nos trois fantastiques, Eva Roque, Axel de Tarlet et Mickaël Darmon. Mickaël va revenir sur les propos peu élogieux qu'aurait tenu Nathalie Loiseau, l'ex-tête de liste En Marche envers ses alliés au Parlement européen. Un carnage politique, nous expliquera Mickaël. Notre championnat de foot passe de l'ameublement à la livraison de repas à domicile. Fini la Ligue 1 Conforama, place à la Ligue 1 Uber Eats. Ce sera la chronique d'Axel de Tarlet. Enfin, Eva Roque reviendra sur les 70 ans du journal télévisé dont France 2 fête ce soir l'anniversaire.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Julien Pierce.
Et le journal de 6h30 vous est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Trois titres à la une, David.
Un discours de politique générale et de nombreuses réformes. Page complète dès le début de ce journal. Nous zoomerons sur l'assurance chômage et sur la procréation médicalement assistée. C'est presque du confidentiel défense. Les sujets du bac, comment l'éducation nationale procède-t-elle pour garantir le secret? Reportage Europe 1 dans un instant. Et puis nous vous emmènerons au théâtre. Pierre Richard joue un seul en scène, un one-man show à Paris, mais on est très loin du Grand Blond. Cela s'appelle Petit Éloge de la Nuit et cela vaut le détour.
Europe 1.
Le Premier ministre a déclaré l'urgence pour le deuxième temps du quinquennat, l'urgence de réformer les retraites, bien sûr, avec la disparition des régimes spéciaux et l'annonce d'un âge d'équilibre en dessous duquel on ne touchera pas sa pension à taux plein, mais aussi la confirmation de la réforme de l'assurance chômage. Elle sera présentée en détail la semaine prochaine, mais Édouard Philippe en a déjà esquissé les contours. Emmanuel Dutheil.
Il y aura bien un système de bonus-malus pour les entreprises qui utilisent des contrats courts. L'objectif, pénaliser les entreprises qui en abusent. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. 5 à 10 secteurs seront concernés, a précisé hier le Premier ministre. On sait que le transport et l'hôtellerie, très consommateurs de contrats courts, en font partie. Sur Europe 1, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, très opposé à ce système, était malgré tout hier soir presque rassuré.
Je pense que ça sera surtout pas efficace. Alors la bonne nouvelle, si j'ose dire, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est limité à quelques secteurs. Je pense d'ailleurs qu'inconsciemment, c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas complètement convaincu de l'efficacité du système. Donc ce que j'espère, c'est qu'il aura le courage, si au bout de 18 mois ou de 2 ans, on voit que ça ne fonctionne pas, de revenir en arrière.
Il y a pourtant bien une autre certitude. Les demandeurs d'emploi qui ont de gros salaires vont voir leur indemnité baisser au bout de 6 mois de chômage. Cette dégressivité devrait s'appliquer pour les hauts revenus et donc concerner assez peu de personnes au final. Afin de ne pas manier que le bâton, le Premier ministre promet aussi de renforcer l'accompagnement des chômeurs.
Emmanuel Dutheil pour Europe 1. Sur le plan sociétal, le Premier ministre a confirmé que la promesse du candidat Macron serait tenue. Je vous parle de la PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée. Projet de loi fin juillet au Conseil des ministres. Débat à l'Assemblée à la rentrée. Bien sûr, le sujet entraîne déjà de nombreuses réactions. Virginie Riva.
C'est l'annonce du Premier ministre qui a été la plus applaudie dans l'hémicycle. Une partie du groupe En Marche s'est même levée. Une victoire pour l'aile sociale de la majorité, comme pour le député Hugues Granson.
C'était évidemment un marqueur très important pour la majorité. La PMA pour toutes les femmes, c'est une annonce très forte du Premier ministre, présentée au Conseil des ministres en juillet, examinée au Parlement en septembre. Nous étions nombreux à le souhaiter. Et je crois que ça va justement satisfaire un certain nombre de députés de la majorité.
Les socialistes qui ont fait passer en leur temps la loi sur le mariage pour tous sont les rares à gauche à saluer cette nouvelle, même si Olivier Faure met un bémol.
La PMA en septembre, c'est une bonne nouvelle. Mais enfin, je ne peux pas non plus limiter les attentes des Français à la seule PMA.
Pas la priorité des Français, c'est le refrain de toute l'opposition, de la France insoumise en passant par les Républicains jusqu'au Rassemblement national, le député RN Sébastien Chenu.
Moi, je n'ai jamais rencontré un électeur qui m'ait dit que sa priorité, c'était la PMA. Donc je pense que ce gouvernement a fait un choix, il lui appartient, mais ça ne relève pas de la priorité des Français.
La grande crainte, agitée déjà par certains lieutenants de la droite comme Éric Woerth, que la PMA ouvre la voie plus tard au recours aux mères porteuses.
Virginie Riva, du service politique d'Europe 1. Par ailleurs, le Premier ministre a promis une accélération écologique dans les 12 prochains mois. Nous reviendrons plus en détail sur les annonces dans ce domaine, dans le journal de 8 heures et les réactions auxquelles génère Édouard Philippe, vous le savez, a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. 363 voix pour, 163 contre et 47 abstentions. Ce sera sans doute différent aujourd'hui devant le Sénat, contrôlé par l'opposition de droite, mais le vote des sénateurs n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Un hommage national à la mémoire des trois sauveteurs de la SNSM sera présidé en fin de matinée par Emmanuel Macron. Les trois hommes de la Société nationale de sauvetage en mer ont perdu la vie vendredi alors qu'ils portaient secours à un pêcheur en détresse. En politique, toujours, mais à Bruxelles, Marine Le Pen y tiendra ce matin une conférence de presse pour présenter le groupe où siégeront les députés du Rassemblement National. Cela s'appellera Identité et démocratie. Et malgré 3 semaines de négociations, on sera bien loin du super groupe promis pendant la campagne. Adrien Beck.
Jusqu'au tout dernier moment, Marine Le Pen et ses amis auront tenté de se trouver des alliés. Au compteur finalement, 73 eurodéputés, bien loin par exemple des 180 élus de la droite européenne, pourtant affaiblis. C'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux, mais on est beaucoup plus gros qu'avant, défend un député européen. Plus gros, mais sans prise de guerre autour de Matteo Salvini et Marine Le Pen. Ni les Britanniques du parti du Brexit, ni les conservateurs polonais, ni les Hongrois du parti de Viktor Orban, pourtant courtisé tout au long de la campagne. Attendons, certains nous rejoindront sans doute en cours de route, veut croire un cadre du RN. Sauf que plus tôt un groupe est important, plus il a de l'influence. Les postes clés au Parlement se jouent dès maintenant. De quoi rendre plus difficile à réaliser la promesse de campagne de Marine Le Pen, changer l'Europe de l'intérieur.
Adrien Beck pour Europe 1. La sœur du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman doit être jugée à Paris le 9 juillet prochain. Elle est accusée d'avoir donné l'ordre à son garde du corps de frapper un artisan dans son appartement parisien en 2016. Elle est visée par un mandat d'arrêt. Peu de chance qu'elle se présente à l'audience, mais elle serait jugée en son absence. L'artisan, un plombier, affirme de surcroît que le garde du corps lui a intimé l'ordre de s'agenouiller, les mains ligotées, pour baiser les pieds de la princesse.
À suivre dans ce journal, le bac commence lundi, les sujets sont en train d'être acheminés vers les centres d'examen et vous allez voir les techniques pour garder le secret n'ont rien à envier au confidentiel défense. À tout de suite.
Il est 6h36.
Europe 1.
Il est 6h38, Julien Pierce.
La suite du journal, David Doucan. Le bac, c'est à partir de lundi. Reportage Europe 1 avec ceux qui ont pour mission de garder le secret.
Oui, vous allez voir qu'on n'est pas loin des techniques des agents de renseignement. Virginie Salmen a pu assister au parcours d'un sujet. Départ du rectorat de Strasbourg, direction le centre d'examen.
Le sujet sort d'une énorme imprimante sur une feuille A4. Il est aussitôt mis sous pli dans une enveloppe inviolable en plastique blanc. Ça, c'est le travail de Janine.
On prend un sujet, que ce soit anglais LV1, et là, on s'y attelle et on en a pour une journée, voire 2 jours ou 3 jours, ça dépend, le nombre de candidats.
Donc juste pour l'anglais, 2-3 jours.
Oui.
En tout, ça vous prend combien de temps?
Plusieurs, 2 bons mois.
Pour 300 sujets au total. Alors Janine, ça n'est pas son vrai prénom, vous allez comprendre pourquoi. Ici, c'est la culture du secret.
On essaye de ne pas dire à l'extérieur où on travaille, surtout aux jeunes.
Pour pas avoir de pression?
Voilà, c'est ça.
Vous êtes comme des agents secrets, finalement.
C'est un peu ça, on a tout à fait le rôle.
Deuxième étape, un proviseur emporte en camionnette électrique les cartons de sujets jusque dans son lycée. Monsieur Guetoucha les recompte minutieusement pour s'éviter un gros stress lundi matin, puis il les met sous clé.
Alors, il est où ce coffre-fort?
Alors, il est là, juste au fond, là, légèrement caché. Il existe seulement 2 clés sur l'établissement et une combinaison que seules 3 personnes connaissent.
Tous les sujets sont sous clé et on les ouvrira donc lundi matin.
Strasbourg, Virginie Salmen, Europe 1.
Et maintenant, allons au théâtre, Julien, à la Scala à Paris, où un certain Pierre Richard donne un seul en scène, c'est ce qu'on dit en français pour One Man Show. Oui. L'acteur a 84 ans, le titre c'est Petit éloge de la nuit, la critique de Diane Chenouda pour Europe 1.
J'aime cette plongée dans la nuit.
Avec sa voix chaude, ses grands gestes, ses mimiques, sa danse parfois, il prend le texte à bras-le-corps, Pierre Richard, dans cet éloge de la nuit.
Cette immersion profonde qui me rappelle l'apnée dans l'océan.
Et c'est touchant de voir son grand corps d'acteur se plier, se déplier dans la nuit du théâtre, au crépuscule de sa vie.
Le rêve est l'aquarium de la nuit.
Certains dans le public ressortent émus.
Grande présence et à la fois léger et profond.
C'est très vivant, des textes très beaux.
C'est comme un rêve éveillé.
J'ai beaucoup aimé. Très 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 poétique, très beau, magnifique.
Toujours un plaisir de le découvrir sous un autre angle. Découverte très agréable.
C'est un magicien de la nuit. Il est fou dans la nuit. Quelle belle nuit, quelle belle soirée on a passé avec lui.
Un Pierre Richard que l'on découvre évidemment sous un autre angle, avec ici son double mélancolique et lunaire.
L'envers du mois s'y fait jour.
Et je vous donne une information, Julien, concernant Bernadette Chirac. Passage de relais à la tête de l'opération Pièce jaune. Brigitte Macron succède à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. C'est Madame Chirac qui a proposé le nom de l'actuelle Première Dame. La Coupe du Monde de football, les Françaises ont vaincu la Norvège 2-1 hier soir pour leur deuxième match de poule. Prochain match, lundi à 21h, elles affronteront le Nigeria à Rennes. Ce n'est pas encore totalement fait, mais elles ont fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes.
Jérôme Lacroix dit 9 crampons, 3 quarts. Voilà. Enfin, un crampon, 3 quarts, pardon. C'était le journal de David Doucan. Merci, David.
À demain.
On s'intéresse maintenant au ciel, Céline. Le soleil sera bien présent aujourd'hui.
Oui, et pour toute la moitié sud et le flanc est, ça c'est sûr, et ça toute la journée. Pour le nord-ouest et le nord, c'est plus mitigé. Encore pas mal de nuages ce matin, du vent, quelques gouttes possibles, des ondées qui vont se décaler vers les côtes de la Manche cet après-midi. Du coup, on aura un petit peu plus d'éclaircies. Pour la moitié sud, on va noter que le vent d'autant sera bien sensible et puis qu'on aura une nouvelle perturbation pluvieuse qui va arriver en toute fin de journée sur le sud-ouest. Quant aux températures, elles sont encore un petit peu justes pour la saison. 16 à 24 degrés sous les nuages, 22 à 28 pour les autres.
Merci beaucoup Céline Dacosta.
Europe 1.
Mais il est 6h42, Julien Pierce.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 où info et bonne humeur sont de rigueur. Dans un instant, nos trois fantastiques, Eva Roch, Mickaël Darmon et Axel de Tarlet viennent parler politique, économie et médias. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h45, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, propose de ne plus poursuivre les délinquants de moins de 13 ans. La garde des Sceaux veut établir un seuil d'irresponsabilité pénale en dessous de cet âge, annonce aujourd'hui dans un entretien au journal La Croix. Emmanuel Macron préside aujourd'hui une cérémonie en la mémoire des trois sauveteurs de la SNSM, morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier de détresse. Et puis le mondial de foot féminin, deuxième victoire en deux matchs pour les Bleus. Elles ont battu les Norvégiennes hier soir à l'issue d'une rencontre plutôt laborieuse, 2-1. C'était à Nice, place quasi assurée en huitième de finale.
5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1.
7h moins quart sur Europe 1, l'heure de retrouver nos trois fantastiques. Eva Roch pour la télé, Axel de Tarlet pour l'économie et Mickaël Darmon pour la politique. Bonjour à vous trois.
Bonjour, bonjour Julien.
J'adore ce jingle, il faut que je le mette en sonnerie de téléphone. Mickaël, on commence avec vous. Selon le Canard Enchaîné, Nathalie Loiseau, l'ex-tête de liste En Marche aux Européennes, aurait tenu en off, c'est-à-dire hors micro, des propos, comment dire, peu élogieux envers certaines personnalités du Parlement européen. Un propos qui, depuis, provoque un tollé, une onde de choc qui déstabilise toutes les positions françaises à Strasbourg et à Bruxelles. Mickaël, il s'agit, selon vous, d'un carnage politique. Expliquez-nous pourquoi.
Ah oui, alors effectivement, selon le Canard Enchaîné, selon également donc Europe 1, on plante le décor tout d'abord. Si vous aviez raté le début, comme on dit, c'était le 5 juin, une rencontre off avec une douzaine de journalistes accrédités à Bruxelles et Nathalie Loiseau, nouvellement élue. Une attaque en règle contre toutes les personnalités européennes, qu'elles soient alliées ou adversaires. Par exemple, Manfred Weber, qui dirige le PPE, est qualifié d'ectoplasme. Le problème en Europe, c'est Merkel, dit-elle. Et j'en passe, encore des meilleurs, concernant même les colistiers. D'ailleurs, tout n'a pas été dit, puisqu'elle a même qualifié une colistière donc, très connue auprès d'elle, donc de vieille folle dingue. Bref, Nathalie Loiseau dément des propos tenus devant 12 journalistes quand même, qui ont tous entendu ce qu'elle a dit, mais elle s'est tout de même excusée après auprès de ses collègues du Parlement. Donc ça veut dire qu'il s'est quand même passé quelque chose au sommet de l'exécutif. Et auprès des responsables de la politique européenne, les discours en coulisses sont tout simplement unanimes. C'est une catastrophe, dit-on, on le savait, elle est comme ça. On a fait ce qu'on a pu pendant la campagne pour masquer la situation, mais maintenant qu'elle est élue, on ne peut rien empêcher, on ne peut plus contrôler. Au sein du groupe des élus de la liste Renaissance, c'est la stupéfaction, et à l'Élysée, on explique tout simplement que le président ne veut plus entendre parler donc de Nathalie Loiseau, celle qui a mené la campagne.
Alors au-delà de l'image, Mickaël, quelles sont les conséquences politiques de ces propos de Nathalie Loiseau?
Eh bien c'est simple, elle met le groupe des élus français et la position, tout simplement, dans une impasse. Sur le papier, elle devait être nommée à la tête du groupe des libéraux centristes au Parlement européen, la L2, elle devait donc apporter également le plus de députés. C'est fortement compromis, après avoir donc moqué des colistiers qui pourraient lui faire défaut. Par ailleurs, les commissions importantes que visait la France, en particulier celle stratégique de l'environnement que brise Pascal Canfin, et bien pendant au moins un temps, ça pourrait donc passer sous le nez des Français, puisque les Anglais, qui s'apprêtent à sortir, réclament des commissions stratégiques. Enfin, fait, c'est tout le jeu subtil des alliances donc, qui est compromis. Et c'est le premier signe d'un affaiblissement de la France au sein du Parlement. Alors que l'Élysée expliquait, après la campagne des Européennes, que la France était en position de force donc les tractations au Parlement européen pour la formation d'une coalition de progressistes. Mais en traitant une fois de plus Weber du PPE d'ectoplasme, on peut dire pour le moins que la confiance a été rompue. Alors le casse-tête Nathalie Loiseau est en tête d'agenda donc, pour la France. Une solution est recherchée pour l'effacer en douceur du tableau. En 15 jours de mandat, c'est tout simplement un carnage politique qui lui est attribué. Elle était à la tête de la liste Renaissance. Mais à ce stade, sa marque de fabrique, c'est plutôt la déficience.
Merci Mickaël Darmon pour cette analyse. L'économie, Axel de Tarlet, un nouveau sponsor pour la Ligue 1 de football. La Ligue 1, notre championnat, l'élite, va s'appeler désormais Ligue 1 Uber Eats.
Voilà, c'est un choix étrange. Hein. Aujourd'hui, on dit Ligue 1 Conforama. Donc il va falloir s'y habituer. À partir de 2020, il faudra dire Ligue 1 Uber Eats. C'est étrange parce qu'à la limite, on connaît Uber, ce sont les chauffeurs de VTC, mais là, c'est Uber Eats, donc E-A-T-S. Donc, c'est Uber, c'est de l'anglais, hein. Uber Mange, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est le service de livraison de repas à domicile d'Uber. Je dois reconnaître qu'on est quand même là dans une micro-niche hein, qui est réservée aux urbains ultra connectés et pressés qui, revenant le soir à 22h chez eux, veulent se faire livrer dardard un burger vegan. Pour un grand sport populaire comme le football, vous voyez, ce choix de sponsor peut paraître un tout petit peu étriqué,
on
va dire.
Et pourquoi ce choix étrange ?
Eh bien écoutez, les deux y trouvent leur intérêt bien compris. D'abord pour la Ligue de football, avoir Uber comme sponsor, ça fait chic. Ça fait plus chic que Conforama. D'ailleurs, ils se sont félicités dans un communiqué. Ils disent c'est une marque mondiale, innovante, générationnelle, qui va nous permettre de rajeunir et de dynamiser notre image. Donc premier bon point, l'image. Deuxième bon point, l'argent. Parce que Conforama donnait 20 millions, et là, selon le Figaro, Uber va donner plus de 30 millions d'euros pour 3 ans. Donc vous voyez, vous savez, le football, il faut beaucoup d'argent pour payer les jambes de Neymar et les grandes vedettes internationales. Donc pour la Ligue de football, vous voyez, il y a deux avantages, l'argent et l'image. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'Uber Eats, j'ajoute, va sponsoriser le football? Eh bien, Uber, c'est un géant coté à Wall Street, hein, plus de 70 milliards de dollars, mais c'est un géant qui perd de l'argent. Qui perd 1 milliard par trimestre. Et donc, il faut qu'il raconte une histoire aux investisseurs. Parce que les investisseurs, ils voient que c'est une entreprise de VTC qui perd de l'argent et qui est en conflit avec les chauffeurs. Donc, c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup d'avenir. Et donc, ils veulent faire comme Amazon. Amazon, au début, c'était un vendeur de livres et il a montré que c'était un géant du e-commerce. Et bien, de la même façon, Uber veut changer de statut et ne plus être une entreprise de VTC, mais devenir un champion mondial de la mobilité. C'est pour ça qu'il nous parle de livraison de repas à domicile, par drone, par hélicoptère, par taxi volant. Vous voyez, on veut raconter, c'est le storytelling. Dire qu'on est le futur champion de la mobilité du 21e siècle. Et ça, c'est bankable. Ça vaut 70 milliards à Wall Street. Même si vous perdez 1 milliard, c'est pas grave. Après tout, Amazon a perdu des milliards pendant longtemps avant de devenir le géant Amazon. Donc vous voyez, des deux côtés, on y trouve son intérêt. Et c'est pour ça qu'à partir de 2020, il faudra parler de la Ligue 1 de football, Uber Eats.
Merci,
c'est dur à dire.
Axel de Tarlet. Oui, mais personne ne va le dire
final.
Bien Conforama, on le dit pas mal. Hein.
Oui, mais c'est ce qu'on les droits.
C'est facile à dire.
Oui, mais encore.
Merci beaucoup. On termine ce tour de table avec vous, Eva Rock. Qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder ce soir à la télé ?
C'est une soirée spéciale sur France 2 qui est consacrée aux 70 ans du journal télévisé. Alors Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse vont proposer dès 21h une compilation des événements qui ont marqué la vie de ces 20 heures. Regardez encore chaque soir par 10 millions de téléspectateurs si on comptabilise seulement les JT de TF1 et France 2. Hein. Émission suivie d'un excellent documentaire à 23h05. Il était une fois le journal télévisé, un film qui revient sur la création de ce moment de télé imaginé par un certain Pierre Sabag, on est en 1949. Il est journaliste à Europe 1, à Europe numéro 1, et il a une idée depuis plusieurs mois déjà.
J'estimais être arrivé au bout de la radio parce que je n'avais pas l'image. Cette image me manquait, je me disais « aïe, 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 si là j'avais l'image, je pourrais tellement aller plus loin ».
Et il va y arriver, alors à force d'abnégation et avec l'aide des progrès de la technique, évidemment, on est un 29 juin 1949. Pierre Sabag a une idée incroyable de proposer pour ce premier JT des images prises depuis une montgolfière. Sauf que le ballon va exploser en vol après avoir heurté une ligne de haute tension, sans faire de blessés heureusement, mais en offrant des images spectaculaires que vous verrez ce soir dans ce documentaire. Le JT durait alors un quart d'heure tous les jours, alors pas de présentateur, mais des journalistes qui tournaient et qui faisaient leurs commentaires en direct, comme le raconte un certain Pierre Tchernia.
Nous faisions des commentaires en direct. On était, il y avait Dumayet, il y avait Decaune, il y avait Salbert. On était dans une petite cabine, on avait la clé à la main. Hop, on appuyait sur la clé quand notre sujet passait et on faisait nos commentaires.
J'adore la voix de Per Tchernia. Voilà, c'est mon côté nostalgique et Madeleine de Proust. Et puis vous allez découvrir aussi comment les premières interrogations déontologiques apparaissent. Pendant la retransmission, par exemple, des 24 heures du Mans, les téléspectateurs vont assister en direct à une sortie de route d'une des voitures, 84 morts. Ouais. Et cette question, est-ce qu'il fallait continuer à filmer ou poser la caméra pour aller tenter de sauver des gens? Et puis plus léger, mais peut-être est-ce la naissance des fake news, allez savoir. Vous allez voir comment un caméraman sur une moto pendant le Tour de France reste loin, mais très loin derrière le coureur pour faire croire qu'il s'agit de Bobet en tête de course, alors qu'en fait il suit le deuxième. Bobet allait beaucoup trop vite pour la moto en question. Il était déjà bien loin devant et ils ont fait croire qu'ils avaient réussi à suivre le premier. C'est un documentaire délicieux à regarder à 23h sur France 2 et qui s'appelle Il était une fois le journal télévisé.
Et ben on va regarder ça. Merci beaucoup Eva Rock, merci à vous trois. Mais fantastique et à demain.
Il est 6h54, Julien Pierce.
Debout les copains, touche bientôt à sa fin. Dans un instant, une voix chaude et bienveillante viendra vous accompagner jusqu'à 9h. Nico Saliagas, bien entendu. A tout de suite sur Europe 1.
Julien Pierce.
Debout les copains s'achève pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à demain. Bonjour mon cher Nico.
Bonjour. Vous savez qu'on s'habitue vite aux voix des gens et c'est vrai que là, donc j'ai l'impression que vous êtes là depuis des mois.
Bah c'est
ça n'enlève en rien au respect que j'ai pour Mathieu Noël.
Oui, il va revenir lundi.
Vous, ouais. Il reviendra lundi.
Mais vous l'avez, mon garçon. Vous l'avez. Bonjour Eva. Regardez Eva Rock et Céline. Elles sont souriantes, mais c'est louche.
Bonjour, oui.
Ce sourire cache quelque chose.
Non, on se marre depuis ce matin. On disait qu'on vous trouvait très beau ce matin. Oui, encore plus que d'habitude.
Qu'est-ce qui nous arrive, s'il vous plaît?
Je sais pas.
Moi, le plus beau, il est autour de cette table et c'est vous, Laurent Cabrol. Bonjour.
Bonjour, merci du compliment.
Mais si, ah, c'est, bonjour, c'est le patron, c'est le patron.
Non, on l'a pas fait, celui-là.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.